7. Hodges passe sa soirée à manger lentement son yaourt tout en regardant la chaîne météo. La tempête annoncée, ridiculement baptisée Eugénie par les grosses têtes de la chaîne, continue d'arriver et devrait frapper la ville à un moment ou à un autre demain.
Difficile d'être plus précis en l'état actuel des choses, affirme la première grosse tête, un chauve à lunettes, à l'autre grosse tête, une bombe blonde. On n'avait jamais vu une tempête aussi capricieuse.
La blonde rit, comme si son partenaire en météorologie avait dit un truc follement spirituel, et Hodges pointe sa télécommande pour leur couper le sifflet.
La zapette, se dit-il en la regardant. C'est comme ça que tout le monde appelle ce machin. Sacrée invention quand on y pense. On peut accéder à des centaines de chaînes différentes par une commande à distance. Plus la peine de se lever. Comme si on était à l'intérieur de la télévision et pas dans son fauteuil. Ou aux deux endroits en même temps. Un genre de miracle, quoi.
Au moment où il entre dans la salle de bain pour se laver les dents, son portable vibre. Il consulte l'écran et ne peut s'empêcher de rire, même si c'est douloureux. C'est maintenant qu'il est chez lui, dans l'intimité de son propre domicile où personne ne risque d'être dérangé par la sonnerie du home run, que son vieux coéquipier décide plutôt de lui téléphoner.
Hey Pete, sympa de savoir que tu te souviens encore de mon numéro.
Pete n'a pas le temps de déconner.
J'ai un truc à te dire, Kermit. Et si tu décides de t'en servir, moi je suis comme le sergent Schultz dans Stalag 13, tu te souviens ?
Ouais. Ce qui vrille tout à coup le ventre de Hodges n'est pas une crampe de douleur, mais d'excitation. Étrange comme les deux se ressemblent.
Tu ne sais rien.
Exact. Bien obligé, parce qu'en ce qui concerne nos services, le meurtre de Martin Stover et le suicide de sa mère sont une affaire classée. Et on ne va certainement pas rouvrir le dossier à cause d'une coïncidence. Et les ordres viennent d'en haut. On est clair là-dessus ?
Comme de l'eau de roche, répond Hodges. C'est quoi cette coïncidence ?
L'infirmière chef de la clinique des traumas de Kinner s'est suicidée la nuit dernière, rue de Scapelli.
J'ai appris ça, dit Hodges.
Lors d'un de tes petits pèlerinages à l'hôpital pour rendre visite au charmant monsieur Hartsfield, je présume ?
Mouais.
Inutile de signaler à Pete qu'il n'a même pas pu aller jusqu'à la porte du charmant monsieur Hartsfield.
Scapelli avait un de ses gadgets, là, un zapit. Apparemment, elle l'a jeté à la poubelle avant de se trancher les veines. L'un des gars de la scientifique l'a trouvé.
Ah.
Hodges retourne au salon et s'assoit, grimaçant lorsque son corps se plie en deux.
Et c'est l'idée que tu te fais d'une coïncidence ?
Pas nécessairement, répond Pete gravement.
Mais
je veux prendre ma retraite en paix, bon sang de bois. S'il y a une balle à récupérer sur ce coup-là, Izzy peut le faire.
Mais Izzy n'a aucune envie de récupérer une balle puante.
Non. Et le capitaine non plus, sans parler du commissaire.
En entendant ça, Hodges est forcé de réviser son opinion sur son ancien coéquipier. C'est pas un vieux flic fatigué, en fin de compte.
T'as vraiment été leur parler ? Essayer de garder la balle en jeu ?
Au capitaine, oui. En dépit des objections d'Izzy James, dois-je préciser. Ces objections stridentes. Le capitaine a parlé au commissaire. Et là, en fin de soirée, on me notifie de laisser tomber.
Et tu sais pourquoi ?
Ouais.
Parce que c'est connecté à Brady d'un côté comme de l'autre.
Martin Stover étant l'une de ses victimes du City Center, Ruth Scapelli étant son infirmière.
Il faudrait environ 6 minutes à un journaliste modérément futé pour faire le lien et pondre une belle grosse histoire à sensation. C'est ce que t'a dit le capitaine Pedersen ?
Exactement. Personne à la police ne tient à ce que le projecteur soit de nouveau braqué sur Hartsfield. Surtout si on considère qu'il est toujours jugé incompétent pour organiser sa défense et donc inapte à comparaître.
Merde, personne à la mairie n'y tient.
Hodges reste silencieux, à réfléchir de toutes ses forces, comme peut-être il n'a jamais réfléchi de toute sa vie. Il a appris l'expression « franchir le Rubicon il y a belle lurette » quand il était au lycée, et compris sa signification sans avoir besoin de l'explication de Madame Bradley. Prendre une décision irrévocable. Ce qu'il a appris par la suite, parfois à ses dépens, c'est que l'on rencontre la plupart de ces Rubicons sans y avoir été préparé. S'il dit à Pete que Barbara Robinson aussi avait un zapit, et qu'elle aussi avait peut-être des idées suicidaires quand elle a séché les cours pour descendre à Lowtown, Pete sera presque obligé d'en référer de nouveau à Pedersen. Deux suicides liés à des apites peuvent être rétrogradés au rang de coïncidence, mais trois ? Bon, d'accord, Barbara n'a pas exactement réussi, Dieu merci. Mais elle a aussi un lien avec Brady. Elle était au concert des Round Here, non ? En compagnie d'Hilda Carver et de Dina Scott, qui elles aussi ont reçu des apites. Mais la police est-elle capable de croire ce que lui-même commence à croire ? C'est une question importante, parce que Hodges aime Barbara Robinson, et il ne tient pas à ce qu'on porte atteinte à sa vie privée si rien de concret n'en sort.
Kermit, t'es là ?
Oui, je réfléchissais. Est-ce que Madame Scapelli a reçu de la visite hier soir ?
Peux pas te dire, parce qu'on n'a pas interrogé les voisins.
C'était un suicide, pas un meurtre. Olivia Trelawney aussi s'est suicidée, dit Hodges. Tu te souviens ?
C'est au tour de Pete de se taire. Évidemment qu'il se souvient. Et il se souvient aussi qu'il s'agissait d'un suicide assisté. Hartsfield avait implanté un verre malveillant dans l'ordinateur d'Olivia Trelawney pour lui faire croire qu'elle était hantée par le fantôme d'une jeune mère tuée au City Center. Que la plupart des habitants de la ville en soient venus à la considérer comme en partie responsable du massacre, parce qu'elle avait été négligente avec ses clés de voiture, y avait aussi contribué.
Brady a toujours adoré.
« Je sais ce qu'il a toujours adoré, » dit Pete. « Pas besoin d'en rajouter. J'ai encore un morceau de choix pour toi, si tu veux.
Vas-y, balance.
J'ai parlé à Nancy Alderson cet après-midi vers 5 heures.
« Bien, Pete, » pense Hodges. « Tu te crèves un peu le cul pour tes dernières semaines. »
Elle m'a dit que Madame Ellerton avait déjà acheté le nouvel ordinateur pour sa fille, pour ses cours en ligne. Il est encore dans son emballage sous l'escalier menant au sous-sol. Ellerton s'apprêtait à l'offrir à Martine pour son anniversaire le mois prochain.
Préparatif pour l'avenir, en d'autres termes. Parce qu'on attendrait d'une femme suicidaire, si ?
Non, j'imagine que non. Faut que j'y aille, Kermit. La balle est dans ton camp. Joue là ou laisse-la filer.
À toi de voir. Merci, Pete. J'apprécie que tu m'aies mis au courant.
Je regrette le bon vieux temps, dit Pete. On aurait suivi la piste tous les deux, et tant pis pour les conséquences.
Mais ce temps est révolu.
Hodges se masse le flanc.
Oui, révolu. Prends soin de toi. Tâche de reprendre un peu de poids, nom de Dieu.
Je fais de mon mieux, répond Hodges. Mais il parle dans le vide. Pete a déjà raccroché.
Il se brosse les dents, prend un antidouleur et enfile lentement son pyjama. Puis il se met au lit et regarde fixement l'obscurité, attendant le sommeil ou l'aube, selon ce qui se présentera en premier.
8. Après avoir enfilé les vêtements de Babineau, Brady a veillé à récupérer son badge d'identité sur son bureau, car la bande magnétique au dos en fait un passe universel. À 22h30 ce soir-là, à peu près au moment où Hodges finit par être rassasié de météo, il l'utilise pour la première fois pour entrer dans le parking clôturé du personnel derrière le bâtiment principal de l'hôpital. De jour, le parking est plein à craquer. Mais à 7h, il a l'embarras du choix. Il choisit de se garer aussi loin que possible de l'éclat envahissant des lampes à arc de sodium. Il abaisse le dossier du siège de la tire de luxe du Dr B et coupe le contact. Il se laisse aller au sommeil et se retrouve à naviguer à travers un léger brouillard de souvenirs déconnectés, tout ce qui reste de Félix Babineau. Il sent le goût de menthe du baume à lèvres de la première fille qu'il a embrassée, Marjorie Patterson, au collège de Joplin Heist, dans le Missouri. Il voit un ballon de basket avec le mot « voix » écrit en lettres noires râpées. Il sent la chaleur dans son pantalon de jogging alors qu'il se fait pipi dessus, pendant qu'il est en train de colorier derrière le vieux canapé de mémé, un énorme dinosaure recouvert de velours vert fané. Apparemment, les souvenirs d'enfance sont les derniers à s'en aller. Peu après 2 heures du matin, il tressaille sous l'effet d'une vive réminiscence. Son père, lui administrant une gifle pour avoir joué avec des allumettes dans leur grenier. Et il se réveille en sursaut dans le siège baquet de l'ABM. Une seconde, le détail le plus net de ce souvenir subsiste. Une veine palpitant dans le cou congestionné de son père, juste au-dessus du col de son polo de golf bleu isode. Puis il redevient Brady,
revêtu du costume de peau de Babino.
9. Confiné en chambre 217 et dans un corps qui ne fonctionne plus, Brady a eu des mois pour dresser ses plans, les réviser et réviser leurs révisions. Il a commis des erreurs en cours de route. Il regrette, par exemple, d'avoir utilisé Z-Boy pour envoyer un message à Hodges sous le parapluie bleu de Debbie, et il aurait dû attendre avant de se lancer après Barbara Robinson. Malgré tout, il a persévéré, et voilà où il en est, au seuil de la réussite. Il a répété mentalement cette partie de l'opération une bonne douzaine de fois, ce qui fait qu'il avance maintenant avec confiance. Un coup de carte magnétique lui donne accès à une porte marquée « Entretien A ». Aux étages supérieurs, les machines qui font tourner l'hôpital sont à peine audibles, un bourdonnement étouffé, si tant est qu'on les entende. Ici, elles font un grondement de tonnerre régulier, et le corridor carrelé est étouffant. Mais il est désert, comme escompté. Un hôpital de grande ville ne dort jamais d'un sommeil profond, mais aux petites heures du jour, il ferme les yeux et somnole. La salle de pause de l'équipe d'entretien est déserte aussi, tout comme la zone douche et vestiaire au-delà. Certains casiers sont fermés avec des cadenas, mais la plupart sont ouverts. Il les essaie les uns après les autres, vérifiant les tailles, jusqu'à ce qu'il trouve une chemise grise et un pantalon de travail de la taille approximative de Babino. Il ôte les habits du Babi, et endosse la tenue d'agent d'entretien, sans oublier de transférer le flacon de comprimé qu'il a pris dans la salle de bain du toubib. Prescription pour madame et monsieur. Mélange puissant. À l'une des patères près des douches, il aperçoit la touche finale. Une casquette de baseball rouge et bleu des Groundhogs. Il la prend, ajuste la bande élastique à l'arrière et la rabat sur son front, veillant à bien rentrer tous les cheveux d'argent de Babino. Il remonte toute la longueur de l'entretien A et tourne à droite dans la laverie de l'hôpital, humide en plus d'être étouffante. Deux femmes de ménage sont assises sur des chaises en plastique entre deux rangées de séchoirs Foshan gigantesques. Elles dorment, l'une avec une boîte de crackers en forme d'animaux renversés dans le creux de sa jupe en nylon vert. Plus loin, après les machines à laver, deux chariots de linge sont rangés contre un mur en parpaing. L'un est plein de chemises d'hôpital, l'autre chargé de piles de draps propres. Brady attrape une poignée de chemises, les pose par-dessus les draps soigneusement pliés et pousse le chariot devant lui dans le couloir. Il lui faut changer d'ascenseur et remonter à pied la passerelle pour atteindre le bocal. Et il croise exactement quatre personnes sur son chemin. Deux infirmiers en train de chuchoter devant une armoire de fourniture médicale, deux internes dans le salon des médecins, occupés à rire silencieusement devant un écran de portable. Aucun d'eux ne prête attention à l'agent d'entretien de nuit qui passe, tête baissée, en poussant son lourd chariot de linge. Le moment où il risque le plus de se faire remarquer, et peut-être reconnaître, c'est quand il franchira le bureau de l'accueil au centre du bocal. Mais sur les deux infirmières de garde, l'une est en train de jouer au solitaire sur son ordinateur et l'autre rédige des notes, soutenant sa tête de sa main libre. Celle-ci, apercevant un mouvement du coin de l'œil, salue l'homme qui passe sans lever la tête et lui demande comment il va.
« Bien, » répond Brady. « Froid quand même cette nuit. Mm-hmm.
Et il paraît que la neige arrive. »
Elle bâille et reprend ses notes. Brady continue à pousser son chariot dans le couloir et s'arrête un peu avant la 217. L'un des petits secrets du bocal, c'est que les chambres ont deux portes, l'une numérotée et l'autre non. Les portes non numérotées ouvrent sur les placards, permettant ainsi le réassortiment en draps et autres fournitures sans déranger le repos des patients ou leur cerveau dérangé. Brady attrape quelques chemises, jette un rapide coup d'œil alentour pour s'assurer qu'il est toujours seul, et se glisse par la porte anonyme. Un instant plus tard, il a les yeux posés sur lui-même. Des années durant, il a trompé tout son monde, leur faisant croire que Brady Hartsfield était ce que les personnels soignants appellent, uniquement entre eux, un légume, une larve, ou carrément un cata, comme catatonique. Là,
c'est vraiment ce qu'il est. Il se penche et caresse une joue légèrement piquetée de barbe, passe le gras du pouce sur une paupière close, palpant la courbe du globe oculaire en dessous, soulève une main, la retourne et la repose doucement, paume en l'air, sur le couvre-lit. De la poche du pantalon gris, il sort le flacon de comprimé et en verse une poignée dans la paume ouverte. « Prenez et mangez, pense-t-il. Ceci est mon corps, brisé pour vous. » Il entre une dernière fois dans ce corps brisé. Il n'a plus besoin du zapid pour le faire. Pas plus qu'il n'a à s'inquiéter que Babino reprenne le contrôle et s'enfuit comme le petit bonhomme en pain d'épices. Vidé de l'esprit de Brady, c'est Babino le légume. Plus rien là-dedans qu'un souvenir du polo de golf de son père. Brady inspecte l'intérieur de sa tête, comme un voyageur s'apprêtant à quitter une chambre d'hôtel après un séjour de longue durée. Rien oublié dans la penderie? Un tube de dentifrice dans la salle de bain? Peut-être un bouton de manchette sous le lit? Non, tout est bouclé dans la valise et la chambre est vide. Il referme sa main, déteste la lenteur avec laquelle ses doigts se traînent, comme si ses articulations étaient pleines de boue. Il ouvre la bouche, approche les comprimés et les laisse choir à l'intérieur. Il mâche. Le goût est amer. Babino, pendant ce temps, s'est écroulé sur le sol comme un pantin désarticulé. Brady avale une fois, deux fois. Voilà, c'est fait. Il ferme les yeux, et quand il les rouvre, il a le regard perdu sous le lit, fixé sur une paire de chaussons dont Brady Hartsfield ne se servira plus jamais. Il se remet sur les pieds de Babino, ses poussettes, et jette un dernier regard au corps qu'il a véhiculé pendant presque 30 ans. Ce corps qui ne lui sert plus à rien depuis qu'à l'auditorium Mingo, il a reçu le deuxième coup à la tête qui l'a empêché d'actionner le détonateur des explosifs scotché sous son fauteuil roulant. Il fut un temps où il aurait pu s'inquiéter que cette ultime étape cruciale ne lui claque entre les doigts, que sa conscience et tous ses plans grandioses ne meurent en même temps que ce corps. Ce n'est plus le cas. Le cordon ombilical est tranché. Il a franchi le Rubicon. « Ciao, Brady, » pense-t-il, « content de t'avoir connu. » Cette fois, quand il repasse en poussant son chariot devant le bureau des infirmières, celle qui jouait au solitaire est partie, sans doute aux toilettes. L'autre s'est endormi sur ses notes.